Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Merci d'être avec nous. Il est 15h à Kinshasa, 16h à Kindu. Bienvenue à l'écoute de ce journal dont voici les titres. Près d'une tonne de feuilles de cathode de cuivre interceptées la semaine dernière traînent encore dans les installations de la police des mines à Lubumbashi. Jusqu'à présent, le lieu de provenance et le propriétaire ne sont toujours pas connus. En Ituri, l'armée affirme avoir neutralisé dimanche soir dans la localité de Silolo le général autoproclamé Furabo Munzabo et chef influent du FPIC. L'armée appelle les rebelles qui traînent encore dans la brousse à déposer les armes pour ne pas subir le même sort comme leur leader. Notre invité, le coordonnateur de la protection civile en ville de Beni, Jean-Paul Capitula, parle des cas des explosions des bombes artisanales à Beni et des dispositifs mis en place pour protéger les populations civiles. Bon après-midi chez vous et bienvenue encore une fois. Près d'une tonne de feuilles de cathode de cuivre interceptées la semaine dernière traînent encore dans les installations de la police des mines à Lubumbashi. Jusqu'à présent, les lieux de provenance et son propriétaire ne sont toujours pas connus. La police des mines poursuit les enquêtes et met en garde ceux qui se permettent de saboter l'économie nationale par des vols et autres sorties frauduleuses des minerais. Des détails avec Jean Gandou.
D'après la police des mines, le véhicule qui transportait ces minerais venait de la route Likasi. Les services de sécurité, ayant constaté que les véhicules transportaient des biens lourds, ont voulu en savoir plus. Ils ont demandé au chauffeur de s'arrêter, mais il n'a pas obtempéré. Il a préféré rouler vite en prenant des chemins détournés. Se voyant filer, lui et une autre personne qui était à bord ont abandonné les véhicules au quartier Ewabora dans la commune annexe à Lubumbashi avant de disparaître dans la nature. Arrivés sur place, les services de sécurité ont constaté que ce véhicule de marque Regus transportait environ une tonne de feuilles de cathode de cuivre. Ramené depuis lors dans les installations de la police des mines, personne n'est passé pour réclamer ces minerais déjà traités. À notre passage à cette unité de la police, nous y avons rencontré quelques sujets chinois venus voir si ces feuilles de cathode sont sorties de leurs usines. Après vérification, ils n'en étaient rien. À cette occasion, la police des mines demande à tous les intervenants dans les secteurs miniers de toujours respecter la procédure dans l'exploitation et l'exportation des minerais, tout en évitant des sorties frauduleuses et autres vols des minerais appartenant à des entreprises minières. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Le gouverneur de province ad intérim du Maniema a réuni lundi dernier dans les halls du gouvernorat Kindu les opérateurs miniers. Il a été question pour Afani Idrissa Mangala de sensibiliser ces acteurs miniers pour qu'ils se mettent en ordre avec l'État afin d'éviter la fraude minière et la légèreté dans la gestion de ce secteur. Cela en vue de permettre à la province de se prendre en charge. Le compte-rendu de cette réunion avec le porte-parole du gouverneur intérimaire dans cette terre choisie par Florence Kizalunga.
La réunion avait pour but de sensibiliser les opérateurs économiques à la régularisation de leur situation administrative parce qu'il y a des opérateurs miniers qui se prévalent des droits d'œuvrer dans les secteurs mais qui n'ont pas de documents administratifs appropriés. Le gouverneur a insisté sur la lutte contre la fraude minière qui est en train de délire domicile dans la province du Maniema. Il a demandé à ses acteurs d'éviter de faire recours à la justice civile et militaire pendant qu'il y a des services attitrés qui peuvent régler les différends avant d'aller en justice. Outre cela, le gouverneur a annoncé à ses invités qu'il est en voie de créer une société minière propre à la province du Maniema, laquelle devra fonctionner avec la taxe conventionnelle qui sera prélevée dans les 15% perçus par les services de SAEMAPE. Et l'avantage pour cette société minière, c'est de permettre à la province d'avoir ses EA propres de manière à booster le développement économique de la province. Nous ne pouvons pas réussir à développer la province du Maniema avec les recettes locales ou avec la rétrocession sans recourir aux emprunts à des banques, à des grandes sociétés qui œuvrent en dehors de la province du Maniema.
Cette rencontre a été saluée par les opérateurs miniers qui ont cependant plaidé pour la réduction de certains frais mis à leur charge. En Ituri, l'armée affirme avoir neutralisé un chef influent du groupe armé Force Patriotique et Intégrationniste du Congo, FPIC en sigle. Furabo Munzabo, c'est le nom de ce général autoproclamé du mouvement de ce mouvement qui serait tombé au cours d'un accrochage avec les militaires FARDC en patrouille la nuit de dimanche à l'aîné dans la localité de Silolo, à 8 km du centre de Marabo. L'armée appelle les autres rebelles qui traînent encore dans la brousse à déposer les armes pour ne pas subir le même sort comme leur chef. Que représentent ces présumés rebelles au sein de ces groupes? Des détails avec Martial Kizabiamungu.
Furabo Muzambo, connu sous le nom de FM, la trentaine révolue, fit le chef du groupement Sidabo dans la chefferie des Andissoma dans les territoires du Romo avant de rejoindre le groupe armé FPIC au début de l'année dernière. Selon des sources sécuritaires, Furabo était l'un des commandants influents de ces mouvements. Par ses actions dans plusieurs villages de Baïmassid et Irumu Centre, il s'était autoproclamé général. Jusqu'à sa mort, il était très actif dans la région de Sililo, à 8 km du centre de Barabo, où ces éléments avaient commis plusieurs exactions contre des civils. Selon les porte-parole de l'armée à Ituri, ce chef milicien a été neutralisé par les éléments de FRDC en opération dans cette région. Le lieutenant Gilles Ngongo précise.
La neutralisation de ces généraux autoproclamés doit interpeller tous les autres chefs impliqués dans l'activisme de la paisible population.
Cependant, d'autres sources dans la région affirment que ce leader de FPIC aurait été tué par ses propres éléments après une dispute. À ce jour, et selon l'armée, une dizaine de leaders de ces groupes armés et leurs collaborateurs sont déjà soit neutralisés, soit aux arrières, ce qui fragilise davantage ces groupes armés. Bounia, Martial, Kiza, Biamungu, Radio Okapi.
Le tribunal militaire des garnisons de Beni Boutembo, siégeant au premier degré, vient de mettre en délibéré, après quelques jours de procès, l'affaire opposant l'auditeur militaire des garnisons contre trois civils poursuivis comme collaborateurs et membres du groupe rebelle ADF. Dans son réquisitoire, le ministère public demande au tribunal de retenir comme charge la prévention des participations à un mouvement insurrectionnel pour tous les prévenus et de les condamner à de lourdes peines. Martial Papimoukeba pour les détails.
Pour le prévenu ayant plaidé coupable en avouant avoir été enlevé puis entraîné au maniement des armes avant d'être utilisé comme ravitailleur du groupe ADF en produit de première nécessité, le ministère public a requis la peine capitale. L'auditeur militaire a requis la peine de servitude pénale principale de 20 ans contre les prévenus auxquels la justice militaire reproche d'avoir notamment travaillé pour le compte de l'ADF, branche dirigée par les commandants rebelles Amigo, en face facilita à ses membres les transports vers différents lieux. Pour le troisième prévenu, chef du village Isonga dans la chefferie de Bachou en territoire de Beni, 63 ans, le ministère public a requis la peine de 10 ans de servitude pénale principale. Il est poursuivi pour avoir délivré un document permettant un libre passage à un ADF lors d'une opération d'achat des vivres. Le verdict est attendu incessamment. Beni, Martial Papimoukeba, Radio Okapi.
Nord Kivu encore, le député national Josué Moufoula est de nouveau libre depuis cet après-midi. L'élu de Goma a été relaxé par la cour militaire après avoir passé une nuit au cachot de l'auditorat militaire. Selon certaines sources qui lui sont proches, sa liberté serait consécutive d'une part à l'exception soulevée par ses avocats sur l'inconstitutionnalité de ce procès devant cette juridiction militaire, mais aussi l'intervention de l'Assemblée nationale. Ces sources précisent toutefois que les députés devraient attendre le procès prévu vendredi prochain et à l'issue duquel la Cour devra se prononcer sur sa compétence ou pas à les juger. Fin de la mission en Mbujimayi au Kasaï oriental de la délégation conjointe du groupe de la Banque mondiale, de la Société financière internationale et des experts du ministère de l'Énergie. Au cours de leurs échanges hier mardi avec l'autorité provinciale, la délégation a indiqué qu'elle a clôturé la phase d'identification des sites du projet d'électrification de la ville de Mbujimayi grâce à l'énergie renouvelable. Le chef de mission affirme que la concrétisation de ce projet sera possible après la validation par les autorités des données récoltées sur le terrain. Le chef de la délégation, Yann Tanvez, chargé de programme à la Société financière internationale du groupe Banque mondiale, s'exprime au micro des journalistes de la radio-télévision Fraternité Buenamuntu.
Kasaï oriental avec les autorités centrales et provinciales sur des projets d'électrification des villes de Mbujimayi et de Kananga à l'aide d'énergie renouvelable, principalement solaire. Nous avons travaillé main dans la main avec toutes les structures locales, une avec le gouvernorat, bien sûr, les ministres qui sont derrière moi, mais également avec le ministère de l'Énergie, l'Agence nationale d'électrification, l'ANSER, ainsi que les dirigeants de la SNEL. Nous avons discuté du projet avec les autorités et identifié potentiellement des sites pour la génération solaire. C'est un travail préliminaire, donc les études techniques seront menées et les sites seront confirmés plus tard. Je crois que l'implication des autorités provinciales ainsi que des structures provinciales du ministère et autres pour à la fois la conception mais aussi l'exécution de tels projets.
Et puis une délégation des consultants de l'Union internationale pour la conservation de la nature séjourne à Kindu dans le Maniema depuis hier mardi. Dans une interview accordée à la presse, le chef de la délégation, Dominique Ndaimana, justifie cette présence au chef-lieu de cette province par la formation des acteurs intervenant dans la protection de l'environnement dans le cadre du projet Pyred Maniema qui exécute la coopération allemande GIZ. On écoute Dominique Ndaimana dans ses propos recueillis par Florence Kizalunga.
Nous avons été invités ici par la GIZ dans le cadre de la mise en œuvre du projet PIRED. Donc nous sommes là pour former les acteurs de la conservation, de la protection de l'environnement, que ce soit les acteurs de la société civile, les communautés locales et tous ceux qui sont impliqués dans le cadre de ce projet. Donc notre mission est donc de venir laisser un certain nombre de connaissances au niveau de la population. Pendant 4 jours, nous aurons des cours interactifs au niveau de la salle et aussi nous allons en laisser sur le terrain pour apprécier le niveau de dégradation qu'il y a et trouver ensemble les solutions appropriées pour inverser la tendance actuelle. Nous venons donc pour soutenir, renforcer les capacités, n'est-ce pas, de cet État en matière de conservation, de gestion durable de l'espace. Et nous sommes sûrs qu'avec cet appui politique, il y aura vraiment un engagement prononcé pour que nous puissions atteindre ces objectifs, surtout la GIZ qui travaille sur le terrain avec vous, avec les communautés, avec le secteur privé, la société civile.
Initialement prévu du 19 au 28 août prochain, les 9e Jeux de la Francophonie sont officiellement reportés en 2023 à une date encore à préciser au regard de l'agenda sportif international. C'est le Conseil permanent de la Francophonie qui a annoncé cette décision hier mardi. Plus de détails avec Kanish Mukongo-Fouanikizi.
La décision fait suite à un échange portant sur l'état d'avancement de l'organisation des 9e Jeux de la Francophonie ainsi que sur les possibilités d'une large participation de jeunes athlètes et artistes francophones, a estimé le Conseil permanent de la Francophonie qui s'est réuni en session extraordinaire par visioconférence à Paris sous la présidence de la secrétaire générale Louise Mushikiwabo. Sur place à Kinshasa, les comités d'organisation de Jeux accumulaient des retards dans la réalisation des infrastructures qui devrait abriter cette fête de la jeunesse francophone, indique le Conseil permanent de la Francophonie. Plusieurs missions d'inspection ont défilé dans la capitale congolaise pour palper du doigt la réalité sur terrain. Fin 2021, un nouveau comité national a été nommé pour accélérer le préparatif et qui ont pris un grand retard. Ce report est le deuxième de rang après celui de 2020 suite à la pandémie de la COVID-19.
Actualité internationale.
C'est la fin d'un cauchemar pour Amira Osman. Un profond soulagement pour ses proches et sympathisants. La célèbre militante du droit des femmes au Soudan a été finalement libérée dimanche dernier après 2 semaines de détention. « Je n'ai tué personne et je n'ai blessé personne », a affirmé ce mercredi Salah Abdeslam, principal accusé du procès des attentats du 13 novembre. Au début de son premier interrogatoire sur le fond du dossier, 5 mois après l'ouverture de l'audience. Depuis le début de cette affaire, on a cessé de me calomnier, a martelé le seul membre encore en vie des commandos qui ont fait 130 morts à Paris et Saint-Denis le 13 novembre 2015 lors d'une déclaration spontanée devant la cour d'assises spéciale de Paris.
L'invité.
Notre invité, le coordonnateur de la protection civile en ville de Beni, au Nord Kivu, Jean-Paul Kapitula, parle des cas des explosions des bombes artisanales à Beni et des dispositifs mis en place pour protéger les populations civiles. Il s'entretient avec André Kitenge.
Jean-Paul Kapitula, bonjour.
Bonjour André Kitenge.
Dernièrement, il y a eu encore une autre explosion dans la ville qui a fait des victimes non loin du marché central des Kilokwa. Quelle lecture faites-vous en tant que protection civile de cette situation?
Nous faisons une lecture, j'allais qualifier ça la bassesse de ces terroristes. Nous savons qu'ils tentent à faire valoir leurs actions, mais nous avons toujours alerté la population d'avoir l'œil le plus vigilant. Ce n'est pas la première fois qu'ils tentent leur forfait. Et on a compris que c'est dans une précipitation que ces terroristes étaient en train d'agir parce qu'ils savaient qu'ils étaient déjà dans les viseurs de nos services. Et donc, en tant que protection civile, nous essayons de comprendre que la population doit essayer d'être celle qui constitue sa propre ceinture de sécurité d'abord. Et notre message toujours à cette population, c'est de réveiller leur conscience à ce que lorsqu'il y a des explosions, nous ne devons pas nous décourager, nous ne devons pas nous désolidariser de notre armée. Plutôt, il faut vraiment avoir l'œil le plus vigilant. Parce que ce terroriste, pour qu'il vienne poser les bombes, il passe par des avenues. Il vient de quelque part où ils ont demandé l'adresse à quelqu'un. Soit ils ont logé chez quelqu'un pour venir agir. Si nous sommes tous vigilants, cela peut nous permettre de les capturer. Moi, j'ai toujours demandé que nous ne puissions pas leur laisser à continuer à faire leur sale besogne. Mais par contre, nous devons agir pour qu'on les capture. Parce que si on arrête ces gens qui posent des bombes, donc les bombes n'auront plus à être posées dans la ville.
L'ambassade des États-Unis a alerté sur d'éventuelles attaques sur la ville de Beni. À votre niveau, avez-vous pris un certain nombre de dispositions pour contrer ces actions terroristes?
Déjà de cette alerte, à notre niveau, on a fait une réunion en coopération civilo-militaire. Nous avons appelé les autorités militaires qui sont dans des opérations. On a discuté, on a échangé, on a donné nos informations que la population nous donne. Et pour que les services se mettent à faire de vigilance dans les endroits les plus chauds, dans les axes qu'on nous a indiqués par lesquels l'ennemi pourrait probablement entrer. Donc, nous allons essayer d'aller aux profondeurs pour que nous puissions chercher ces poseurs. Ils vont venir d'où? Quoi qu'il en soit, n'importe quelle route, n'importe quel chemin ils vont fréquenter, ils vont trouver les services derrière eux. Parce que les civils sont aussi en train d'être capacités pour voir comment vraiment et détecter le plus tôt possible ces bombes qu'on dépose, mais aussi comment détecter les personnes qui collaborent avec ces déposeurs de bombes. Donc, cette alerte des États-Unis. Par contre, à mon niveau, j'ai demandé à la population d'avoir le courage et de comprendre que cette alerte nous arme encore de plus pour que nous puissions être beaucoup plus vigilants et faire l'attention à ce que nous puissions mettre la main sur ces poseurs de bombes.
Est-ce que les habitants de Beni sont-ils suffisamment sensibilisés par rapport à toutes ces attaques?
Sont suffisamment informés parce que ce n'est pas le premier forfait. Et la sensibilisation, il n'y a pas une forte sensibilisation que lorsqu'on a vécu un événement. Aujourd'hui, elle est progressive, on ne peut pas dire le degré ici. Parce que sinon, l'ennemi va évaluer quel niveau nous sommes informés. Mais on est suffisamment informés et on est suffisamment préparés. Et donc, il faudra que nous puissions remettre la terreur dans les camps de l'ennemi. Et donc, la population, elle est suffisamment informée et nous pensons que la sensibilisation est continuelle.
La population est suffisamment informée. Quelles recommandations faites-vous en ce moment dans ce genre d'actions qui sont menées dans la ville par les terroristes IDF en posant des bombes? Que recommandez-vous à cette même population?
C'est d'abord féliciter la population qui est en train déjà de mettre la main sur certains grands terroristes de chemin. Et cela prouve la collaboration civilo-militaire. Mais aussi, le message clair, c'est de demander au service d'avoir assez d'élégance à se rapprochant à la population civile. Je l'ai toujours répété chaque fois qu'il faut demander la coopération, mais il ne faut jamais avoir l'attitude qui peut décourager la coopération. Donc, je demande beaucoup d'élégance aux éléments de l'ordre, la police, les services, l'armée, pour que cette cohésion civilo-militaire soit beaucoup cimentée, seule qui pourra nous permettre à finir avec cette guerre. Et en fait, je vais demander à la population, à partir de nos maisons, nous devons identifier chacun de nous. Il suffit de trouver quelqu'un qui présenterait déjà des suspicions de n'importe quel genre que ce soit. Il est très important d'en informer les autorités.
Monsieur Jean-Paul Capitula, je vous remercie.
C'est moi qui remercie la radio Capi.
C'était l'invité de ce journal, le coordonnateur de la protection civile en ville de Beni, Jean-Paul Capitula, s'entretenait avec André Kitenge. Fin de ce journal, merci de l'avoir écouté.